Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Chrysostalis. Chers amis, nous vous proposons aujourd'hui la deuxième émission consacrée à l'histoire des conciles œcuméniques avec Olivier Clément, théologien et historien orthodoxe mort en janvier dernier. Il s'agit d'une rediffusion de l'émission du 15 août 1999 où Olivier Clément parle du troisième concile œcuménique réuni à Éphèse en 431. Je vous prie d'excuser la qualité médiocre de cet enregistrement dont le contenu justifie parfaitement cette rediffusion. Voilà donc la présentation et l'analyse de ce concile qui instaura le terme de Théotokos dont notre Église a célébré hier l'entrée au Temple.
Alors, si vous voulez bien, le contexte, après les deux premiers conciles œcuméniques qui s'étaient occupés un peu du dogme trinitaire.
Exactement.
Et on arrive maintenant au dogme christologique et donc parler de la personne du Christ.
C'est ça. Le IVe siècle a été le siècle voué au mystère de la Trinité, cette unité et diversité en Dieu, cette respiration d'amour, pourrait-on dire, au cœur même de Dieu. Et l'attention des siècles suivants va se fixer alors sur le mystère du Christ, par qui nous pouvons entrer dans cette réalité trinitaire. En Christ, n'est-ce pas, nous, le Christ ne nous est pas extérieur, bien sûr. Nous sommes devant le Christ, mais nous sommes aussi en lui. Et étant en lui, nous sommes dans la Trinité. Mais alors, qui est le Christ? Comment exprimer qu'il est à la fois Dieu et homme? C'est une chose extrêmement subtil, extrêmement compliqué à exprimer, et l'Église même va s'y briser en Orient, car nos frères arméniens, jacobites, syriaques, coptes, éthiopiens, n'acceptent pas le quatrième concile, le concile de Chalcédoine, qui a précisé cela d'une manière peut-être à leurs yeux trop schématique. En tout cas, on voit à quel point les problèmes étaient brûlants, puisqu'ils ont pu entraîner des ruptures, et des ruptures dans le même lieu, n'est-ce pas? Je dirais que la désignation de Marie comme mère de Dieu était née spontanément dès les premiers siècles, dans la piété populaire des premiers siècles, quand on représentait Marie sur les fresques des catacombes. C'était quelque chose d'extrêmement ancien. Dans un papyrus du IIIe siècle, nous avons une prière adressée à la Vierge et qui dit « Ô Mère de Dieu, ô Mère de Dieu, Théotokos, nous nous réfugions sous la protection de ta miséricorde. » Au IVe siècle, saint Grégoire de Nazianze, ce père qui était aussi un poète, n'est-ce pas, disait « Si quelqu'un pense que Marie n'est pas la Mère de Dieu, il est en dehors de la divinité. » Extrêmement intéressant. Et alors, évidemment, deux grandes écoles vont s'affirmer au Ve siècle dans ce problème de comment parler du Christ, comment parler de l'humanité et de la divinité du Christ. L'école d'Antioche et l'école d'Alexandrie. Les Antiochiens soulignaient la pleine humanité de Jésus. Mais certains d'entre eux, à force d'insister sur cette individualité humaine du Christ, tendait alors à définir Jésus comme un homme dont Dieu ferait son temple. Certains disaient son temple dès qu'il est conçu, mais ça les amenait tout de même à ne pas beaucoup aimer l'expression Théotokos, mère de Dieu. Les Alexandrins, au contraire, contemplaient le Verbe fait chair, Dieu qui porte la chair. Et la chair, évidemment, ça a deux sens. Ça peut avoir un sens grec, alors la chair s'oppose à l'esprit. Ça peut avoir un sens, et ça avait fondamentalement un sens biblique. La chair, c'est la créature tout entière, dans toute sa réalité la plus concrète, n'est-ce pas? Et cette chair est déifiée, et elle est par la même déifiante, parce qu'elle nous est communiquée par les mystères de l'Église, elle nous est communiquée surtout à travers l'Eucharistie. Donc nous avons ces deux écoles, ces deux tendances, qui pouvaient très bien se compléter, mais qui risquaient aussi de s'opposer. Il était facile pour les Alexandrins d'accepter de justifier l'appellation de Marie, Mère de Dieu. Parce que pour eux, le sujet du petit enfant, le sujet, je dirais même, de l'embryon dans le sein de Marie, c'est le Verbe de Dieu. C'est Dieu le Verbe, c'est le Fils de Dieu. Il y a là quelque chose d'extraordinaire, ça touche le problème de la christologie. Tandis que pour les Antiochiens, tout cela était absurde, n'est-ce pas? C'est une folie de dire que Dieu est né d'une vierge. Ce qui est né de Marie, c'est l'homme, dit Théodore de Maupassant. C'est l'homme dont, bien entendu, Dieu a fait son temple, en s'incarnant, en étant pleinement présent en lui, avec une union très forte. Mais tout de même, n'est-ce pas, vous voyez les deux approches. Et le scandale a éclaté lorsque, en 428, un représentant de l'école d'Antioche, qui s'appelait Nestorius, et qui était un homme cultivé, d'ailleurs un homme très fin, est devenu archevêque de Constantinople. On n'employait pas encore le langage du patriarcat. Ça va venir au siècle suivant, tout simplement. Très vite, cet érudit, à la pensée subtile, à la pensée passionnée aussi, s'est mis à dénoncer le titre de Théotokos. Il a expliqué à son peuple qu'il ne fallait pas dire Théotokos, qu'il fallait dire Christotokos, la mère du Christ. Et il disait ça dans des prédications assez véhémentes, dans des prédications assez violentes, qui heurtaient la dévotion populaire. C'est une chose de dire, je cite, c'est une chose de dire que Dieu, que le Verbe du Père s'est joint au Fils de Marie, et ce n'est une autre d'affirmer que la divinité eut besoin de naître au bout de 9 mois. Et de se scandaliser, il ne faut pas dire que Dieu a été enfanté et allaité par la Vierge. Il ne faut pas parler d'un Dieu âgé de 2 ou 3 mois. Tout ça, disait-il, tout ça est absurde, n'est-ce pas? Il faut dire que le mot « Dieu » est un mot ambigu quand nous disons « la mère de Dieu ». Je me souviens d'une rencontre œcuménique où un pasteur protestant m'a fait remarquer, mais enfin, Dieu le Père, n'est pas le Fils de la Vierge Marie. J'ai dit non, bien entendu, ce n'est pas Dieu le Père, mais c'est Dieu le Fils qui est né, c'est Dieu le Verbe. Et alors ça, évidemment, ça demandait sans doute aussi quelques précisions, quelques clarifications. Il se scandalisait, par conséquent. Compromettre Dieu avec la chair d'une femme. Pour ces hommes sévères, monastiques, à une époque où il y avait ce que Peter Brown, un grand historien du christianisme, a appelé le renoncement à la chair, c'était quelque chose de scandaleux. On ne pouvait pas. Enfin, comment Dieu dans la matrice d'une femme? Mais c'est impensable, n'est-ce pas? C'est impensable. Et c'est là qu'on voit d'ailleurs à quel point quel rôle le christianisme a pu jouer pour réhabiliter la femme par rapport à toute l'ambiance psychologique de l'époque. Et c'est curieux d'ailleurs, je dirais qu'un psychanalyste ne serait pas étonné, dans les propos de Nestorius, on voit l'horreur de la matrice qui rejoint l'horreur du tombeau. Extrêmement curieux. Je ne puis adorer un Dieu mort et enseveli. Donc, il ne pouvait pas adorer un Dieu qui prend chair dans une femme, et il ne pouvait pas adorer un Dieu qui serait mort. Dieu ne peut pas mourir. Dieu ne peut pas se faire chair dans le corps d'une femme. Il y a là des choses extrêmement intéressantes et extrêmement profondes qui étaient en jeu. Christotokos, celle qui a enfanté le Christ, celle qui a enfanté l'homme et qui allait devenir le temple de Dieu. Voilà quelle était la position de Nestorius. En Christ, pour Nestorius, le divin et l'humain se conjoignent, mais se conjoignent moralement et non pas d'une manière vitale, si l'on peut dire. Il n'y a pas d'interpénétration, il n'y a pas de déification de l'humain. Et s'il n'y a pas de déification de l'humain, alors l'Eucharistie ne peut pas nous transmettre cette chair déifiée et déifiante qui est pour nous la réalité absolument essentielle, n'est-ce pas? On ne saurait parler de vie en Christ mais là encore, de nouveau, simplement, sans doute, d'une imitation morale de Jésus. Cyrille, l'archevêque d'Alexandrie, Saint Cyrille d'Alexandrie, a réagi avec une extraordinaire véhémence quand on lui a rapporté ce qui se passait à Constantinople. D'ailleurs, à Constantinople, il y avait des protestations. Et il y avait, même parmi les laïcs, des gens qui protestaient, qui ont placardé des affiches sur les portes de Sainte-Sophie, qui accusaient Nestorius de blasphème parce qu'il refusait l'appellation mère de Dieu. Et donc, il y avait tout un drame. Cyrille d'Alexandrie est un personnage extrêmement étrange, intéressant, mais étrange. C'est un véritable pharaon, d'abord, comme étaient à cette époque-là les évêques d'Alexandrie, un homme qui laisse ses moines mener des pogroms, littéralement des pogroms, contre les derniers philosophes païens, et notamment une jeune femme d'une grande beauté, d'une grande intelligence, qui s'appelait Hypatie, et qui a été massacrée, n'est-ce pas, par les moines, parce qu'elle enseignait des enseignements néoplatoniciens, très spiritualistes, mais elle n'était pas chrétienne. Et puis, c'était une femme. Pourquoi est-ce qu'une femme se mêlerait d'enseigner toutes ces choses, n'est-ce pas? Et il était très inquiet aussi de ce que disait Nestorius. Les moines égyptiens avaient tendance à s'emparer des gens qui aimaient la pensée de Nestorius, à les allonger et puis à les scier en deux en disant « Ah, on va te faire ce que tu fais au Christ. Tu le coupes en deux, n'est-ce pas? Tu distingues l'humain et le divin, nous allons te faire ça. » C'était des moines extrêmement remuants que les moines égyptiens, non pas des hommes de paix et des hommes de sérénité. Le vocabulaire de Cyrille, c'est un grand théologien, c'est un admirable, un puissant théologien. Ce qui ne l'empêche pas d'avoir des côtés qui, à mon avis, sont contestables. Il savait se mettre bien avec la famille impériale, et notamment avec les impératrices. L'impératrice, ses filles, il leur envoyait des bijoux d'or et aussi des plumes d'autruche qu'il était facile de se procurer en Égypte et qui étaient extrêmement appréciées à la cour. Alors lui, il avait un vocabulaire qui n'était pas toujours très clair. Tantôt, il parlait d'une unité du Christ selon la personne, selon l'hypostase. Bon, ce qui sera effectivement proclamé par l'Église un peu plus tard à Chalcédoine. Mais quelquefois il disait « selon la nature ». Et qu'est-ce que veut dire « nature » Ce n'est pas très clair. Il est certain que le mot « nature » en Égypte, dans la pensée de l'Égypte chrétienne, n'avait pas le même sens que dans la pensée grecque ou dans la pensée latine. C'était la vie. La vie divino-humaine, pourrait-on dire, du Christ, et non pas la nature qui serait soit la nature humaine, soit la nature divine. Parce que si on dit la nature, et si on comprend dans ce sens-là, alors on se dit, mais après tout, la nature humaine doit être consumée par la nature divine, comme une goutte de parfum dans l'océan. Il y avait ces images qui sont d'ailleurs des images très orientales, qui rappelleraient plutôt la pensée de l'Inde. Mais malgré ce vocabulaire imprécis, il voulait dire effectivement que l'enfant conçu par Marie, comme l'homme couvert de sang et de crachat qui marche à la croix, c'est Dieu, c'est le Verbe de Dieu, c'est le Fils de Dieu, et ça c'est le cœur du christianisme. Au cœur du christianisme, il n'y a pas un Jupiter tonnant, il y a un Dieu humilié, et un Dieu crucifié, crucifié par tout le mal du monde, mais qui nous ouvre, pour peu que nous le voulions, des voies inattendues et parfois incongrues de résurrection. Ça, c'est le cœur même du message chrétien. C'est ce que nous voulons dire quand nous disons « Christ est crucifié par la mort, il a vaincu la mort à ceux qui sont dans les tombeaux, nous sommes tous dans des tombeaux, il a donné la vie ». Voilà, alors Cyrille est entré en colère, carrément, et il y a eu un échange de lettres sans issue entre lui et Nestorius. Et ces lettres étaient de plus en plus fortes, de plus en plus violentes, de sorte que finalement, en 431, l'empereur, toujours responsable du bon ordre dans l'Empire, l'empereur Théodose II, avec l'accord des deux adversaires et du pape, car le pape bien entendu, faisait partie de cette église qui était l'église une. Il était très respecté en tant qu'évêque de Rome, en tant que premier parmi les évêques. Ce qu'il disait était considéré comme un document essentiel, mais ça ne tranchait pas pour autant. Quand un concile œcuménique se réunissait, le pape envoyait généralement un texte en disant « voilà ce que je décide ». Alors le concile recevait avec beaucoup de respect ce texte et puis se mettait à travailler. Ce texte était un élément important du dossier et finalement le concile et le pape finissaient toujours par s'entendre à cette époque, n'est-ce pas? C'était une époque où le mystère de l'unité est très difficile à concevoir, à conceptualiser. Mais la réalité de l'unité était là. Il y avait des tensions, mais ces tensions se résorbaient toujours dans la communion. Le pape finissait par admettre la réalité conciliaire de l'Église, le concile finissait par admettre que la parole du pape était une chose extrêmement importante dont on ne pouvait pas se passer. Voilà, sauf au 5e concile œcuménique, qui lui a été un concile où le pape n'a joué aucun rôle, n'est-ce pas? Donc l'empereur décide de convoquer un concile. Et où? Eh bien à Éphèse. À Éphèse parce que vous savez peut-être qu'il y a une polémique pour savoir où a vécu et où est morte la mère de Dieu, où est morte Marie. Il est très probable, et tout le monde pense maintenant, qu'elle est morte à Jérusalem. Ce que dit d'ailleurs, ce que disent les textes, nos textes liturgiques, n'est-ce pas? Ils parlent de Marie au jardin des Oliviers, de Marie à Gethsémani et de sa mort. Mais il y a toute une tradition qui veut qu'elle ait vécu avec l'apôtre Jean, à qui Jésus l'avait confié. Jésus, en croix, a dit aux disciples bien-aimés, « Voici ta mère et à Marie, voici ton fils. » On n'a pas de données historiques sur cette vie de Marie vieillissante avec Jean vieillissant lui aussi. On le représente toujours comme un jeune homme, mais un vieux document grec nous le montre comme un vieux monsieur très sage, devenu chauve avec une petite touffe de cheveux seulement au sommet du crâne. Et ce qui s'est passé, c'est que d'une part, il y a la parole de Jésus à Jean, c'est que d'autre part, nous savons que Jean, après avoir été exilé à Patmos, a vécu à Éphèse, et qu'une mystique allemande, qui s'appelait Catherine Emmerich, et dont les propos ont été notés par un grand poète allemand, Brentano, a déclaré que Marie avait vécu près d'Éphèse, dans la montagne, et qu'elle était morte là. Et aujourd'hui, on montre encore aux touristes et aux pèlerins, car il y a des pèlerins, même des musulmans, une maison qu'on appelle la maison de la Vierge, qui est sans doute une ancienne chapelle. Mais peu importe. À Éphèse, il y avait une église qui s'appelait tout simplement Marie. Même pas Sainte Marie ou la Mère de Dieu, mais l'église appelée Marie. Et c'est là que le concile devait se réunir. Alors, devaient venir des évêques d'Égypte, devaient venir des évêques d'Antioche, devaient venir des représentants de l'Occident envoyés par le pape, et finalement, les choses sont passées très bizarrement. Saint Cyril, qui n'était pas un homme patient, mais qui était un homme de violence, débarque le premier. Et il décide, comme Jean d'Antioche n'était pas encore arrivé, de forcer le destin. Alors il déclare, voilà, tous ces évêques que j'ai amenés, nous faisons le concile. Le concile, c'est nous, n'est-ce pas? Et le concile, donc, se réunit. Je parlerai de son œuvre plus tard. Quelque temps après, mais pas longtemps, arrivent les Antiochiens qui se scandalisent. Comment vous avez ouvert un concile alors que nous ne sommes pas là? Alors nous allons nous aussi nous constituer en concile. Et alors les envoyés du pape arrivent et eux se mettent du côté de Cyril. Et puis tout le monde se met à se disputer avec des troubles. L'empereur exaspéré décide de dissoudre les deux conciles et d'emprisonner les deux grand partenaire, c'est-à-dire Cyril et Nestorius. Cyril, qui avait envoyé des plumes d'autruche, n'est-ce pas, qui était bien en cours, s'en est tiré, il est rentré en Égypte, n'est-ce pas, tout s'est bien passé. Nestorius, qui était un pauvre érudit perdu, a été finalement abandonné par tout le monde, et emprisonné ou relégué dans un monastère du désert libyen. Finalement, d'ailleurs, avant de mourir, il se réconciliera avec la grande Église, puisqu'il a adopté le credo le horos, la définition de Chalcédoine, un peu plus tard, pas longtemps plus tard, n'est-ce pas? Bon, 2 ans après, en 433, Jean d'Antioche et Cyrille ont décidé de se réconcilier. C'est là qu'on sent que la puissance de la communion intervient. Et il y a eu un message de Jean d'Antioche, Cyrille l'a accepté sans trop de nuances, avec beaucoup de générosité, avec beaucoup de désintéressement. Et une déclaration commune a été mise au point qui, c'est presque déjà le texte du 4e concile œcuménique, le suivant, celui de Chalcédoine. Mais pour comprendre, est-ce qu'il y a un dogme d'Éphèse? Quelquefois, on le dit, mais quand on regarde de plus près, on voit qu'en fait, il n'y a pas de dogme d'Éphèse. Il y a simplement le fait, ça s'est passé très vite. Cyrille et ses évêques disent, nous sommes le concile, voilà ce que dit Nestorius, tout le monde pousse des hurlements d'horreur, Nestorius immédiatement est condamné, et on déclare donc, voilà, le Théotokos est confirmé. Alors, si on voulait chercher un dogme d'Éphèse, il faudrait chercher dans la deuxième lettre de Saint Cyrille à Nestorius, qui effectivement a été couronné, pourrait-on dire, par le concile. Mais le bruit immédiatement s'est répandu dans la ville d'Éphèse et que le concile avait proclamé ou confirmé que Marie était Théotokos. Et l'enthousiasme a été non seulement des évêques, mais du peuple. Le peuple s'est massé autour de Marie, autour de l'église appelée Marie, et a acclamé Cyrille et les autres évêques qui étaient là. Et il s'est formé un grand cortège, la nuit était tombée, des femmes sont venues. Les femmes étaient les premières à acclamer le concile qui avait proclamé Marie, mère de Dieu. Les femmes sont venues portant des encensoirs et des flambeaux. Et elles ont encadré les évêques et les ont raccompagnés jusque dans les lieux où on les avait hébergés. Enfin, c'est un épisode tout à fait magnifique. Et finalement, il y a eu cette réconciliation de 433 qui est un texte tout à fait frappant, n'est-ce pas? Je peux vous lire d'abord dans la deuxième lettre de Saint Cyrille, que l'on peut considérer comme le dogme d'Éphèse, bien que ce ne soit pas un dogme. Nous confessons un seul Christ, un seul Seigneur. Vous voyez que l'enjeu était un enjeu christique ou christologique. Nous confessons un seul Christ, un seul Seigneur, non en adorant un homme avec le Verbe, pour ne pas introduire le soupçon d'une division en disant « avec ». Mais nous adorons un seul et même Christ, car la chair du Verbe ne lui est pas étrangère, c'est avec elle qu'il siège maintenant avec son Père. L'Écriture ne dit pas que le Verbe s'est uni, le prosopone, c'est-à-dire la personnalité d'un homme, mais qu'il s'est fait chair. Voilà ce qu'enseigne partout la foi orthodoxe. Voilà ce que nous trouvons dans l'enseignement des saints pères. C'est pourquoi ils ont osé appeler Théotokos la Vierge Sainte, non que la divinité du Verbe ait pris de la Vierge le principe de son existence, mais puisque d'elle est né ce corps animé d'une âme spirituelle auquel le Verbe s'est uni selon l'hypostase, selon la personne, sens théologique, on dit que le Verbe a été engendré selon la chair. Voilà véritablement ce qui est dit. Et il faudrait voir alors le texte de 433. Nous confessons que la Vierge Sainte est mère de Dieu, Théotokos, parce que le Verbe de Dieu s'est fait chair, s'est fait homme, et que dès la conception, il s'est uni le temple qu'il a pris d'elle. Donc, vous voyez, vocabulaire alexandrin, Dieu s'est fait chair, précision, s'est fait homme, et que dès la conception, il s'est uni, dès la conception, le temple qu'il a pris d'elle, c'est le vocabulaire antiochien. Donc là, Alexandrie et Antioche, l'insistance sur l'humain, l'insistance sur le divin se complète pour essayer de cerner ou de suggérer le mystère du Christ.
La Théotokos, donc, mère de Dieu, dont on célèbre la dormition.
Et dont on est... Il faut dire la dormition assomption. Parce que la dormition, on peut le dire, de tout être sanctifié et qui meurt doucement. toute mort très douce, très paisible, où l'on sent que l'âme de celui qui vient de mourir est accueillie dans la lumière divine, est une dormition. Mais cette dormition, pour la Mère de Dieu, est aussi son assomption, corps et âme, dans cette lumière divine, dans la divinité. Elle est la première créature humaine de Christ, et n'est pas une créature, il a pris en lui la réalité de la créature, mais il n'est pas une créature, elle est la première créature qui ait été divinisée totalement, corps et âme, à sa mort. C'est pourquoi il ne faut pas opposer ce qui serait un peu confessionnaliste, comme logique, la dormition orthodoxe et l'assomption catholique, car nous avons des textes liturgiques, textes orthodoxes, qui parlent de l'assomption de la Mère de Dieu, corps et âme. Il y a une différence, mais pour une autre raison, c'est que pour les orthodoxes, la Mère de Dieu est réellement morte, et elle a été ressuscitée le troisième jour, quand les apôtres amenaient miraculeusement de tous les points du monde, dit la légende, elle est belle d'ailleurs, sont allés célébrer l'Eucharistie, ils ont trouvé le tombeau de la Mère de Dieu vide. Et le Christ leur est apparu, qui tenait dans ses mains, comme une petite fille, l'âme de sa mère, et une âme non désincarnée, pourrait-on dire. Et voilà ce qui est l'affirmation orthodoxe. Les catholiques, à cause du dogme de l'Immaculée Conception, ont été amenés à dire, car ils ont dogmatisé cette affaire en 1950, ils n'ont pas précisé si elle est morte. Quand elle eut terminé sa carrière terrestre, alors elle fut enlevée, etc., ce qui est parfaitement juste, mais ils ne disent pas qu'elle est morte. Et quand on est en dehors de la chute originelle, est-ce qu'on meurt ? Est-ce qu'on meurt ? Les orthodoxes disent non, on ne pourrait pas mourir. Si Marie est un être pleinement humain, alors elle doit mourir, mais à cause de sa sainteté personnelle et aussi de la sainteté du peuple hébreu qu'elle a récapitulé en elle, alors à cause du fait qu'elle a été la mère du Verbe, la mère de Jésus, son corps ne pouvait pas être détruit, ne pouvait pas être séparé de son âme. Et en elle se réalise pleinement la grande maxime des pères de l'Église, Dieu s'est fait homme pour que l'homme puisse devenir Dieu.
C'était le troisième concile œcuménique par Olivier Clément, une rediffusion de l'émission du 15 août 1999. Notre prochaine émission, dimanche 6 décembre, nous recevrons Jean-François Colosimon pour parler du journal du père Alexandre Schmemann. Ainsi prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France proposée par Alexis Chrysostalis. Notre adresse, Orthodoxie Radio France, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220 Paris Cedex 16. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site franceculture.com.
France Culture vous invite samedi 28 novembre à 15h au Théâtre de la Ville pour une célébration autour de Pina Bausch. Invité, musique, extrait de film avec la chorégraphe, alors venez très nombreux pour ce Pina Grandeur Nature, samedi 28 novembre au Théâtre de la Ville avec France Culture, bien entendu. Tout savoir, tout écouter, franceculture.com. France Culture, retrouvez Culture d'Islam par Abdelwahab Medem chaque dimanche de 22h10 à 23h. Une émission qui nous fait approcher l'islam sous le signe de l'ouverture, de la modernité et de la polyphonie. Culture d'Islam par Abdelwahab Medem, chaque dimanche à 22h10. Tout savoir, tout écouter, franceculture.com. Le service protestant. Une émission de la Fédération protestante de France.
Soyez les bienvenus sur France Culture. Le culte que nous allons suivre ce matin est présidé par sœur Évangéline, prière de la communauté des diaconesses de Reuilly. Elle est accompagnée par sœur Jacoba pour ce culte du dimanche du Christ-Roi.
Frères et sœurs, chers amis, que ce moment de méditation et de prière rejoint dans des situations de solitude, de maladie ou de perplexité, grâce et paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part de l'Esprit dans sa plénitude et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle. Amen.
Dimanche prochain, nous fêterons le premier dimanche de l'Avent, c'est-à-dire le nouvel an des chrétiens en quelque sorte. Aujourd'hui, par conséquent, nous achevons le parcours d'une année liturgique au cours de laquelle, de dimanche en dimanche, nous avons ouvert la Bible, célébré la scène, chanter nos louanges et nos supplications, nous avons prié. Avez-vous, chers amis, auditeurs, découvert un peu plus ce Dieu qui nous offre de faire alliance avec nous? Avez-vous découvert combien il se fait proche, infiniment proche, en prenant notre condition humaine en Jésus-Christ? Telle est la bonne nouvelle, l'Évangile. Dieu est tout près de nous. Approchons-nous donc de lui avec la soif qui est en nous et laissons-nous rejoindre par lui. Prions. Seigneur, toi qui es au milieu de nous en Jésus, mais que nous ne savons pas reconnaître, toi qui par l'Esprit es plus intime à nous que nous ne le sommes à nous-mêmes, mais que nous éprouvons si souvent absent. Toi qui es au-delà de tout nom et qu'aucune pensée ne peut enfermer, mais que nous instrumentalisons si souvent. Pardonne-nous les maladresses de notre quête et l'étroitesse de notre amour.